VOA Afrique. Le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, le monde aujourd'hui, édition du jeudi 28 décembre 2017. En direct de Washington, Idrissa Sidoudia et Anne Albertson. Pour commencer, les titres.
L'Algérienne Leila Zerougui est la nouvelle patronne de la MONUSCO en République démocratique du Congo.
Le doyen des curés de Kinshasa a été entendu hier par la justice congolaise.
Nouvelle manifestation hier à Lomé contre le président togolais Fornia Singbe.
Au Libéria, la commission électorale nationale prévoit de proclamer aujourd'hui les résultats provisoires du second tour de l'élection présidentielle.
Corée du Nord, l'Américain Rex Tillerson et le Russe Sergei Lavrov d'accord pour œuvrer de concert en vue d'une solution diplomatique.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
L'Algérienne Leila Zerougui a été nommée chef de la mission de paix de l'ONU en République démocratique du Congo par le secrétaire général Antonio Guterres. Selon un communiqué de l'organisation, Madame Zerougui, qui a déjà occupé plusieurs fonctions importantes à l'ONU, sera également représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU. Elle doit prendre ses fonctions en janvier en remplacement du Nigérien Maman Sidikou, arrivé au terme de son mandat.
En République démocratique du Congo même, le doyen des curés de Kinshasa a été entendu hier par la justice pour avoir appelé les prêtres de la capitale à sonner les cloches pendant 15 minutes toutes les semaines afin d'exiger le départ du président Joseph Kabila. L'abbé Vincent Tchomba a été entendu par un magistrat du parquet de Kalamu pendant 3 heures, a déclaré à l'AFP l'un de ses avocats, maître Georges Kapiamba. L'interrogatoire aurait tourné, je cite, autour de prétendus tapages nocturnes. Nous y reviendrons en seconde partie.
Au Togo, nouvelle manifestation contre le président Fornia Singbe hier à Lomé. Des milliers de personnes sont pour une énième fois descendues dans les rues de la capitale togolaise. Le point avec Eddy Issango.
Comme les autres fois, la revendication des manifestants est restée la même. Des milliers de manifestants brandissaient des banderoles exigeant un retour à une limitation du nombre des mandats présidentiels et la démission du président Fornia Singbe. Les manifestants ont à nouveau répondu à l'appel de la coalition des 14 partis d'opposition qui mobilisent depuis septembre quasi hebdomadairement. Ils sont sortis dans la rue malgré l'annonce 10 jours plus tôt d'un dialogue entre les pouvoirs et l'opposition. L'opposition a posé des conditions pour les dialogues, parmi lesquelles la libération des manifestants en prison et les retraits des forces de sécurité déployées dans le nord du pays. Jean-Pierre Fabre, président de l'Alliance nationale pour les changements, ANC, parti historique de l'opposition, estime que la balle est dans les camps du régime. Le président Fornia Singbe, au pouvoir depuis 2005, après avoir succédé à son père, le général Nyansingbe Eyadema, a, dans une interview au magazine Jeune Afrique, promis une réforme constitutionnelle pour l'avenir et non le passé. Les pays de la région appellent au dialogue, mais l'opposition promet de nouvelles manifestations aujourd'hui et samedi.
Au Burkina Faso, présentation de l'avant-projet de la nouvelle constitution promise par le président Roch Marc Christian Kabore pendant sa campagne électorale. Dans le texte présenté hier, le président reste la figure marquante du régime, mais il ne peut plus prétendre à plus de 2 mandats continus ou discontinus, a déclaré le rapporteur général de la Commission constitutionnelle, le professeur Luc Marius Ibriga, qui a parlé d'un régime semi-présidentiel. Les députés seront, eux, limités à 3 mandats, soit 15 ans au maximum.
Le secrétaire général de l'ONU et tous les observateurs ont salué le bon déroulement général du second tour de la présidentielle au Libéria. Quant aux Libériens, ils continuent d'attendre dans le calme les résultats de ce scrutin qui a opposé George Weah, l'ancienne vedette du football, au vice-président Joseph Boakai. Le point avec Eric Manirakidza.
La Commission électorale nationale prévoit de proclamer aujourd'hui les résultats provisoires, mais n'a pas donné d'horaire précis. Son président, Jérôme Korkoya, a appelé les 2 candidats à ne pas crier victoire trop tôt, soulignant que seule son institution est autorisée à l'annoncer. Les premières tendances publiées par les radios locales donnaient en tête George Weah au micro de l'envoyé spécial de la Voix de l'Amérique à Moronvia, James Batty, l'ancienne étoile africaine du football et sénateur, a dit espérer gagner.
Aujourd'hui, je sais que je gagne. On attend, mais j'espère. Et je veux dire merci à tous, parce que c'était pas facile. Après le premier tour qui est passé, et merci à tous, et je noue, et bonne année, en avance.
L'ancien président du Ghana, John Dramani Mahama, a salué un scrutin pacifique, transparent, libre et juste. La mission de la CEDEAO note avec satisfaction la tenue de son second tour. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a de son côté appelé au respect de la volonté des électeurs, au transfert de pouvoir sans entrave et dans les délais constitutionnels le 22 janvier. Pour l'ancien président du Nigeria, Goodluck Jonathan, chef des observateurs du National Democratic Institute, NDI, la réussite de cette présidentielle sera une victoire pour les Libériens, l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique en général. Près de 3 décennies après le début d'une guerre civile, le Libéria s'apprête à vivre sa première alternance démocratique entre un président élu et Ellen Johnson Sirleaf, la première femme élue présidente en Afrique.
En Guinée équatoriale, une cinquantaine de militants du parti d'opposition Citoyens pour l'innovation sont détenus et une centaine d'autres réfugiés depuis plusieurs jours au siège du parti à Bata pour fuir des arrestations nocturnes à leur domicile. Le point avec Solange Niamoulissa.
Gabriel C. Obiang Obono, leader national de Citoyens pour l'innovation, a fait savoir qu'une cinquantaine des militants de son parti sont détenus à la prison d'Evinayong sur la partie continentale de Guinée équatoriale. Il accuse les autorités de maltraiter les femmes et les jeunes en leur confisquant leur carte de membre du parti, une pratique qui relève, selon lui, de la persécution politique. Pour sa part, Boniface Nguema, deuxième vice-secrétaire général de ses partis, affirme que plus de 100 militants, craignant d'être arrêtés, se sont réfugiés au siège du parti à Bata, la capitale économique, pour fuir les séquestrations. Le Parti citoyen pour l'innovation rapporte que les arrestations nocturnes de ses militants ont commencé peu après les élections générales du 1er novembre, où il a obtenu environ 5% de voix et un député, l'unique représentant de l'opposition sur les 100 parlementaires que compte l'Assemblée nationale équato-guinéenne.
Le Pentagone a annoncé hier que 13 militants Chebab ont été tués la veille de Noël dans une frappe aérienne dans le sud de la Somalie. Selon le commandement militaire américain pour l'Afrique, le gouvernement somalien a aidé à coordonner cette opération qui a eu lieu au nord-ouest de Kismayo. Un commandant de l'armée somalienne a ajouté que ce raid au drone ciblait les militants islamistes alors qu'ils se mobilisaient pour attaquer une de ses bases. Les États-Unis ont mené quelques 30 frappes aériennes contre Al-Shabaab cette année, dont une attaque au drone qui a tué 100 de ses combattants le mois dernier dans un camp d'entraînement.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le département d'État américain a annoncé hier que le secrétaire d'État Rex Tillerson et son homologue russe Sergueï Lavrov ont convenu de continuer à travailler ensemble pour parvenir à une solution diplomatique menant à une péninsule coréenne dénucléarisée. Les deux hommes avaient discuté par téléphone, je cite, du programme nucléaire déstabilisateur de la Corée du Nord et souligné que ni les États-Unis ni la Russie n'acceptent Pyongyang comme puissance nucléaire. Mardi, le ministère russe des Affaires étrangères avait dit que M. Lavrov avait averti M. Tillerson que la rhétorique agressive de Washington avait exacerbé les tensions dans la péninsule coréenne, qualifiant cette rhétorique d'inacceptable.
La coalition internationale anti-djihadiste conduite par les États-Unis en Irak et en Syrie a accusé hier le président syrien Bachar al-Assad de garantir l'impunité au groupe État islamique dans les zones contrôlées par le régime. Les djihadistes de ce groupe semblent se déplacer en toute impunité dans les territoires contrôlés par le régime, ce qui montre que le régime est clairement réticent ou incapable de le vaincre, a déclaré à des journalistes au Pentagone le général britannique Philip.
En Russie, 10 personnes ont été blessées hier dans l'explosion d'une bombe artisanale dans un supermarché de Saint-Pétersbourg, cible d'un attentat meurtrier en avril. Les autorités ont ouvert une enquête pour tentative d'homicide. Les enquêteurs ont assuré n'écarter aucune piste sans toutefois ouvrir formellement de procédure pour attaque terroriste. Cette explosion intervient à 4 jours du réveillon du Nouvel An, qui marque le début de la période des fêtes pour les Russes avant le Noël orthodoxe le 7 janvier, sur fond d'inquiétudes croissantes concernant le retour des djihadistes ayant combattu en Syrie et en Irak.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Écho, Eric Manirakis.
En Libye, une explosion sur un important oléoduc qui achemine le brut du sud libyen vers un terminal du nord-est du pays a provoqué une baisse de la production. L'origine n'a pas été encore déterminée. La compagnie nationale de pétrole a dévié la production sur un autre oléoduc et a tout de même annoncé une baisse de 70 000 à 100 000 barils par jour. L'ONU a réduit son budget de fonctionnement d'environ 5% pour les années 2018 et 2019. Il s'élève à près de 5 milliards et 400 millions de dollars. En revanche, les dépenses liées aux opérations de paix constituent un budget séparé de plus de 7 milliards de dollars. Il est inférieur de 193 millions de dollars à ce qu'avait réclamé le secrétaire général. L'ONU emploie 40 000 personnes à travers le monde. Cette réduction globale du budget viendra d'économies d'emploi dans l'ensemble des départements et bureaux des Nations Unies. Enfin, Bruxelles veut de nouvelles mesures pour améliorer le fonctionnement de la zone euro. Les pays du Nord comme les Pays-Bas et l'Allemagne se montrent réticents à mutualiser des richesses avec des pays du Sud, en l'occurrence la France, l'Italie ou l'Espagne, dont la politique budgétaire est jugée trop laxiste. D'après la Banque mondiale, la zone Schengen a enregistré en 2016 un produit intérieur brut de 11 934 milliards de dollars, comparable à celui de la Chine avec 11 199 milliards de dollars, mais reste derrière les États-Unis avec 18 624 milliards.
À présent, les sports avec Yacouba Ouédraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
À Liverpool, 84 millions d'euros pour un défenseur.
C'est une somme record pour un défenseur, Idrissa. Le Néerlandais devient ainsi le joueur le plus cher de l'histoire à ce poste. Virgil van Dijk, 26 ans, a dépassé les deux joueurs de Manchester City, le Français Benjamin Mendy et le Britannique Kyle Walker, arrivé à l'été 2017 pour 58 et 57 millions d'euros. L'international néerlandais évoluait depuis 2015 à Southampton.
Autre record, toujours en football, Sébastien Abreu a signé avec le 26e club de sa carrière.
Et oui, Idrissa, certains footballeurs sont célèbres pour avoir passé plusieurs décennies dans le même club. L'international uruguayen de 41 ans a fait tout le contraire. En s'engageant aujourd'hui pour la formation chilienne de l'Audax Italiano, l'attaquant surnommé El Loco a signé un contrat avec la 26e équipe de sa carrière. Et pour ceux qui ne se rappellent plus de Sébastien Abreu, c'est le joueur qui a marqué d'une panenka le tir au but victorieux lors du quart de finale contre le Ghana, qualifiant l'Uruguay pour les demi-finales de la Coupe du Monde Afrique du Sud 2010.
Mapuyanga Mua, lui, pourrait quitter Lyon cet hiver.
C'est le quotidien sportif L'Équipe qui évoque le sujet. Avec seulement 128 minutes de jeu en Ligue 1, Mapuyanga Mbiwa pourrait faire ses valises lors du Mercato. Le défenseur central d'origine centrafricaine sous contrat avec l'OL jusqu'en 2020 intéresserait notamment l'Inter Milan, selon L'Équipe toujours. La Fiorentina et Istanbul Başakşehir songeraient aussi aux natifs de Bangui.
Du tennis à Abu Dhabi ou le tournoi des grands retours.
Rarement une compétition d'exhibition aura été aussi attendue. Le tournoi d'Abu Dhabi verra les retours de Novak Djokovic et Serena Williams après plusieurs mois d'absence. L'Américaine de 36 ans qui a mis au monde une petite fille en septembre a remporté, on se souvient, l'Open d'Australie en janvier dernier alors qu'elle était enceinte. Le Serbe Novak Djokovic, lui, n'a plus joué depuis Wimbledon à la suite d'une blessure au coude droit. Et pour terminer avec vous, Idrissa, quelques résultats de NBA, le championnat nord-américain de basketball.
Boston et Charlotte 102-91, Dallas et Indiana 98-94, Washington et Atlanta 99-113, New York Knicks et Chicago 87-92, Denver et Minnesota 125-128, Brooklyn Nets et New Orleans 113-128 et Toronto et Oklahoma City 107-124.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sédoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Cameroun, Patrice Nganon, écrivain américain d'origine camerounaise, vient d'être expulsé manu militari vers les États-Unis. Après plus de 21 jours passés à la prison centrale de Yaoundé, il a bénéficié d'un abandon des poursuites. L'affaire Patrice Nganon a surtout relancé au Cameroun le débat sur la double nationalité. John Lyndon a joint à Yaoundé le docteur Hilaire Kamga, porte-parole de la plateforme de la société civile au Cameroun, qui revient tout d'abord sur cette expulsion.
Il faut avoir une lecture contextuelle et une lecture conjoncturelle. Sur le plan contextuel, il faut noter que l'expulsion est une réaction d'un gouvernement acculé qui, toute honte vue, s'est trouvé obligé, comme ça, de libérer Patrice Nganon. Mais comme il ne pouvait pas le libérer simplement maintenant, du point de vue jurisprudentiel, il fallait trouver une formule pour que, effectivement, il perde pas la face. Ça, c'est sur le plan contextuel. Maintenant, par rapport à la conjoncture, il faut noter qu'on est à la veille des élections, d'une élection présidentielle et générale au Cameroun. Et il faut marquer le coup d'une certaine manière, et malheureusement, sur ce plan-là, le gouvernement de Yaoundé, tout ça, M. Nganon, ouvre une boîte de Pandore qui risquera d'être difficile à gérer.
Et comment ?
Dans la mesure où un nombre important ou considérable des personnes qui occupent des hautes fonctions au Cameroun ont tout aussi la double nationalité, y compris la ministre du gouvernement de M. Diapole. Et donc, de ce point de vue, expulsé sous le simple prétexte qu'il a une double nationalité, avec éventuellement interdiction de séjour au Cameroun, supposerait qu'on pourrait appliquer la même peine pour M. Patrice Nganon. Deuxième élément, ce qui est important ici, c'est que le gouvernement ne semble pas avoir pris en considération la possibilité de la réciprocité qui pourrait être appliquée par les États-Unis d'Amérique.
L'arrestation et puis l'expulsion de Patrice Nganon remet au goût du jour la question de la double nationalité. Vous en parliez tout à l'heure. Que dit la loi à ce sujet?
Il est évident que la loi camerounaise, qui est une loi qui date d'une période assez particulière, c'est-à-dire au milieu des années 68, plus précisément, cette loi qui clairement que lorsque vous prenez une autre nationalité, vous devez perdre la nationalité camerounaise, de fait. Michel Hidio, président de la République du Cameroun à l'époque, ne voulait donc pas que les exilés camerounais qui étaient partis du fait des lois d'exception puissent prétendre à la nationalité camerounaise. Mais il est évident aujourd'hui que si M. Biya est toujours au pouvoir, il a l'obligation courante, et le Kangana est un cas d'école. Le Kangana crée la jurisprudence qui obligera Yaoundé à soit se départir des gens qui dirigent le Cameroun et qui ont une nationalité, soit conformer sa législation à la réalité existentielle de son propre gouvernement.
C'était le docteur Hilaire Kamga, porte-parole de la plateforme de la société civile.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
En République démocratique du Congo, le doyen des curés de Kinshasa a été convoqué hier par la justice pour avoir appelé les prêtres de la capitale à sonner les cloches pendant 15 minutes toutes les semaines afin d'exiger le départ du président Joseph Kabila. Eddie Isango a joint à Kinshasa son avocat, Maître Georges Kapiamba.
Nous avons eu connaissance de la plainte déposée par le parti politique proche de la majorité présidentielle, dénommé Inanna, qui est dirigé par M. Ouyen Cheki, un ancien vice-ministre de la RDC, et il était prendre dans la suite de l'opération des cloches. L'un de leurs cadres a appliqué une crise en date du 14 décembre 2017 et qu'il était un peu responsable de ce qui lui est arrivé, étant donné que c'est lui qui engage les collègues de curés, de doyens, de paroisses, de tout ça, qui ont initié cette action afin de mobiliser les Kinois et les Kinois à obtenir le pouvoir de Kinshasa, l'application intégrale de l'accord de la sécurité, c'est principalement ce qui concerne le volet de la décrispation politique et de l'organisation dans les meilleurs délais des élections.
Il semble que l'abbé Tchoumba a de nouveau été convoqué.
Là, c'est c'est la deuxième fois qu'il comporte ça. Il a été auditionné pendant plus de 2 heures. Et un matin, un magistrat lui a demandé de se présenter pour la troisième fois vendredi prochain à Zanzibar afin de poursuivre son audition et éventuellement organiser une confrontation à la soi-disant victime aux membres du parti politique proche de la majorité présidentielle. En réalité, pour nous, nous avons constaté qu'il s'agit d'une action du pouvoir, refusée par le pouvoir avec ce service, afin d'intimider M. Labbé de Sassamba, en sa qualité de modérateur du collège des conseils de paroisse de Kinshasa.
Une marche est prévue le 31 décembre, convoquée par les laïcs catholiques. Avec cette convocation, comment vont-ils continuer?
Oui, l'Église catholique a maintenu, à travers les laïcs catholiques, les réformes sont tenues le mercredi. Elles vont se poursuivre aujourd'hui, jeudi, jusqu'à vendredi. Il n'y a pas eu de décision allant dans le sens de la
C'était Maître Georges Kapiamba, avocat de l'abbé Vincent Tiomba, doyen des curés de Kinshasa.
Restez branchés 24h sur 24 sur VOA Afrique à Bukavu en RDC sur 97.4 FM.
Des milliers de Rwandais qui ont fui leur pays avant 1998 pourraient perdre leur statut de réfugiés au Congo-Brazzaville à la fin de l'année. Leur retour au Rwanda est encouragé par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Comment cette situation est-elle perçue au Congo-Brazzaville? Yakuba Ouedraogo a joint Ferdila Ouattara. Elle dirige le bureau du HCR au Congo-Brazzaville.
Actuellement, on a une population d'un peu plus de 9000 réfugiés rwandais et un peu plus de 500 demandeurs d'asile rwandais sur le territoire congolais.
La date butoir, c'est le 31 décembre 2017. Après cette date, ces réfugiés qui ne seront pas en situation de régularité vont se retrouver dans la clandestinité, dit Brazzaville. Qu'est-ce qui est fait?
Il y a eu de la sensibilisation, il y a eu des solutions qui ont été offertes aux réfugiés, la possibilité de rentrer au Rwanda avec l'accompagnement du HCR, mais également la possibilité de rester sur le territoire congolais grâce au gouvernement congolais qui a accepté que ceux qui voulaient rester sur le territoire le restent, mais en régularisant leur statut. Il y avait également la possibilité qui était offerte aux réfugiés qui estimaient qu'ils devaient continuer à bénéficier du statut de réfugié, donc de demander à être exemptés de l'application de la cessation. On a eu plus de 3000 demandes justement dans ce sens-là. Pratiquement tous les réfugiés ont demandé à ce que leur situation personnelle soit examinée. Et cet examen a duré de 2016 à 2017. À l'issue de l'examen, il y a eu plus de 800 réfugiés qui ont pu démontrer qu'ils avaient continué à bénéficier du statut de réfugié. Mais les autres n'ont pas pu démontrer, les commissions interministérielles sont statuées sur leur dossier, mais la possibilité était offerte de régulariser leur séjour en République du Congo. La possibilité est toujours offerte d'ailleurs.
Ceux qui ne veulent pas rentrer au Rwanda, qu'est-ce qu'ils avancent comme raison?
Disons, les raisons pour lesquelles d'abord ils sont devenus réfugiés en République du Congo sont essentiellement liées à la question du génocide. Ce que nous expliquons aux réfugiés, c'est qu'aujourd'hui, il est évident qu'il n'y a pas de problème de génocide en République du Rwanda. Maintenant, les craintes qu'ils ont, ils se plaignent de la situation des droits de l'homme au Rwanda, de la situation économique au Rwanda, mais qui ne sont pas en lien avec les raisons pour lesquelles ils étaient initialement venus en République du Congo.
La date butoir, on le disait tantôt, c'est le 31 décembre 2017. Est-ce que vous craignez que beaucoup d'entre ces réfugiés-là tombent dans la clandestinité?
Nous ne voulons pas justement qu'ils tombent dans la clandestinité. La possibilité est encore offerte pour ceux qui veulent se rapatrier, de se rapprocher du HCR, pour ceux qui veulent rester sur le territoire congolais, de se rapprocher du Sénat pour initier justement la demande de permis de séjour sur le territoire congolais.
Le 31 2017, c'est dans 4 jours, s'il y a des demandes qui sont en cours. Et donc ce n'est pas évident que toutes ces demandes-là puissent recevoir réponse avant la date butoir.
Nous avons mis en place un guichet unique pour recevoir spécifiquement les demandes de cette personnes qui veulent rester sur le territoire. Une fois que vous avez déposé une demande, que ce soit de rapatriement ou d'intégration locale, tant qu'on n'a pas trouvé la solution que vous avez demandé, vous bénéficiez d'un effet suspensif en fait de l'application de la clause de cessation.
C'était Ferdila Ouattara du HCR, jointe à Brazzaville.
Vous êtes sur VOA Afrique à Brazzaville, sur le 101.9 FM.
Après les voitures autonomes, les recherches s'orientent vers des engins à même de sillonner le ciel et d'atterrir sans assistance humaine directe. L'armée américaine travaille actuellement sur un hélicoptère pouvant décoller, voler et se poser en suivant uniquement les instructions entrées à l'aide d'une application. Le reportage de Kevin Enox, présenté par Lionel Gahima.
Le sergent Deonte Jones des Marines américains est le pilote de cet hélicoptère, mais il ne fait rien de spécial à bord. L'appareil opère en toute autonomie, explique-t-il.
L'hélicoptère dispose d'un cerveau et réfléchit par lui-même. Mais je lui dis où atterrir et quand j'ai besoin de lui. J'ai même la possibilité de lui dire de partir ailleurs si je n'ai plus besoin de lui.
L'usager n'a pas grand-chose à faire d'autre que entrer sa destination dans l'application, souligne Dennis Becker du bureau de la recherche navale des États-Unis.
En fait, l'appareil planifie sa mission sur son ordinateur de bord. Il navigue partout où vous l'envoyez. Pas besoin de lui fournir un plan de vol détaillé. Il évite de lui-même les obstacles, les câbles électriques, les arbres, jusqu'au point d'atterrissage, exactement comme le ferait un pilote.
Pour l'armée américaine, investir dans un appareil autonome vise à sauver des vies et opérer d'une manière pratique, fait remarquer le lieutenant-colonel Don Schmidt.
Nous nous disons pourquoi envoyer un Marine dans une position dangereuse alors qu'un robot ferait l'affaire? Cela vaut également pour un gros aéronef autonome avec lequel on peut faire des choses impossibles aux équipages humains qui ont besoin de repos lors des missions en zone hautement dangereuse.
De nombreux autres secteurs suivent avec beaucoup d'intérêt ce projet du corps de marine américain, comme les sapeurs-pompiers de Californie qui font face en ce moment à des incendies de forêts ravageurs. Ils seraient ravis de disposer d'un hélicoptère autonome pouvant surveiller la progression des feux pour leur permettre de mieux organiser la riposte.
Raissa Girondin avec vous. Washington Forum revient ce jeudi sur les faits marquants de l'actualité africaine de ces 12 derniers mois. Comment la République démocratique du Congo est entrée dans une nouvelle période d'incertitude politique et climat d'insécurité? Cette année a marqué également la fin du règne sans partage de certains présidents. Le continent se libère-t-il de ses vieux dirigeants? Le Sahel est-il devenu une cible de choix pour les terroristes? À qui la responsabilité dans le drame des migrants africains? Et le sport africain en 2017, quel bilan? Quels ont été selon vous les principaux événements de 2017 en Afrique? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Et rendez-vous ce jeudi à 19h, temps universel, avec Raissa Girondin.
Hello, hello, I'm your English host. Je suis votre présentatrice pour l'anglais, Michelle Joseph, ici au micro. Voulez-vous mieux parler l'anglais? C'est fait. Retrouvez-moi tous les soirs à partir de 21h, temps universel, sur VOA Afrique et sur notre site internet à www.voaafrique.com. Cliquez sur Apprenez l'anglais pour retrouver les leçons de tous les jours. Et les week-ends sur Onde Courte, le samedi et le dimanche à 20h TU. Pour mieux parler l'anglais, to speak better English, ne ratez pas English USA sur VOA Afrique. You will not go home.
Aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Daryl Smith. Merci à Anna Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sidoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.